Chapitre 4. Fantaisie puérile. Les impressions variées de ce premier dialogue entre Tom et Philip continuèrent à se faire remarquer, même après plusieurs semaines de camaraderie d'écolier. Tom ne se défie jamais complètement de l'idée que Philip, étant le fils d'un coquin, était son ennemi naturel et ne surmonta jamais entièrement sa répugnance contre sa difformité. C'était un garçon qui s'attachait très fortement aux opinions une fois reçues, comme c'est le cas de tous les esprits chez lesquels la simple perception domine la pensée et la sensibilité. L'extérieur restait pour lui rigoureusement ce qu'il avait été d'emblée. Mais pourtant, il était impossible de ne pas aimer la société de Philip lorsqu'il était de bonne humeur. Il pouvait si bien vous aider dans ses exercices latins que Tom regardait comme une difficulté dont on ne pouvait se sortir que par un heureux hasard. Puis il pouvait raconter de si étonnantes histoires de combat, sur Hal the Wind, par exemple, et sur d'autres héros qui étaient les favoris particuliers de Tom, parce qu'ils portaient autour d'eux des coups si formidables. Tom n'avait pas grande opinion de Saladin, dont le cimetière pouvait d'un trait couper un coussin en deux. Qui est-ce qui avait besoin de couper des coussins? C'était une bête d'histoire et il n'avait nulle envie de l'entendre une seconde fois. Mais quand Robert Bruce, monté sur son poney noir, se dressait sur ses étriers et, soulevant sa bonne hache d'armes, brisait à la fois le casque et le crâne du chevalier trop pressé à Bannockburn, Tom ressentait tout l'enthousiasme de la sympathie, et s'il avait eu à sa portée une noix de coco, il l'aurait brisée avec le tisonnier de la cheminée. Philip, dans ses meilleurs moments, mettait Tom au comble de la joie, en rehaussant le fracas, le tapage et la furie de chaque combat, de toute l'artillerie d'épithètes et de comparaisons qu'il avait à son service. Mais il n'était pas tous les jours de bonne humeur, ou bien disposé. La légère boutade de susceptibilité chagrine qui lui était échappée dans leur première entrevue était le symptôme d'une souffrance intellectuelle toujours présente. Moitié irritabilité nerveuse et moitié amertume de cœur produite par la conscience de sa difformité. Pendant ces accès de susceptibilité, chaque regard lui paraissait empreint ou d'une pitié offensante ou d'une répugnance mal contenue, ou tout au moins d'une pure indifférence. Et Philip sentait l'indifférence comme un enfant du midi sans l'air froid du nord. L'air de protection trop marqué de Tom, quand ils sortaient ensemble, le faisait quelquefois se révolter avec colère contre ses bonnes intentions. Et ses yeux, ordinairement tristes et calmes, brillaient de toute autre chose que d'un éclat de gaieté. Il n'est pas étonnant que Tom conservât ses préventions à l'égard de ce garçon incompréhensible. L'habileté de Philip à dessiner, sans avoir appris, était aussi un lien entre eux, car, au grand mécontentement de Tom, son nouveau maître ne lui donna à dessiner ni chien ni âne, mais des ruisseaux, des ponts rustiques et des ruines. Le tout rendu par une douce teinte uniforme de mine de plomb, indiquant une nature qui, si elle existait ainsi, serait une nature satinée. Et comme le sentiment du pittoresque en paysage était pour le moment à l'état latent chez Tom, il n'est pas surprenant que les œuvres de M. Goodrich lui parussent une forme de l'art peu intéressante. M. Taleva, ayant une vague intention que Tom fût mis dans quelque affaire dont le dessin des plans et des cartes fit partie, s'était plaint à M. Riley, quand il le vit à Madport, de ce que Tom n'apprenait rien de ce genre, sur quoi l'obligeant conseiller suggéra que Tom devait prendre des leçons de dessin. M. Taleva ne devait pas regarder à payer un extra pour cela. Que Tom devint habile au dessin, et il pourrait employer son crayon à tout ce qu'il voudrait. Il demanda donc que Tom prît des leçons. Et qui, M. Stelling, aurait-il pu mieux choisir pour maître que M. Goodrich, qui était considéré comme le premier de sa profession dans un circuit de 12 000 autour de King's Lorton? De cette manière, Tom apprit à tailler finement son crayon et à représenter le paysage avec une uniformité d'effet qui, sans doute, à cause de l'étroite tendance de son esprit au détail, lui paraissait excessivement monotone. Tout ceci, souvenez-vous-en, arrivait dans ces temps d'obscurité où il n'existait point d'école de dessin, avant que les maîtres de pension fussent invariablement des gens d'une scrupuleuse intégrité et que le clergé fût composé d'hommes d'esprit large, d'instructions variées. Dans ces jours peu favorisés, ce n'est point une exagération de dire qu'il y avait d'autres ministres que M. Stelling, joignant une intelligence rétrécie à de vastes désirs, et dont le revenu, par suite d'une confusion logique à laquelle la fortune, étant femme aussi bien qu'aveugle, est particulièrement sujette, étant proportionnée non à leurs désirs, mais à leur intelligence, avec laquelle le revenu n'a aucune relation inhérente. Le problème que ces messieurs avaient à résoudre était de rétablir l'équilibre entre leurs désirs et leurs revenus. Et puisque les désirs ne pouvaient être supprimés, la méthode la plus simple paraissait d'être d'augmenter le revenu. Il n'y avait qu'une manière de le faire. Aucun de ces moyens communs par lesquels les hommes peuvent faire de bon ouvrage à bon marché n'était permis à des ministres. Était-ce leur faute, alors, s'ils étaient obligés de demander un prix très élevé pour un travail souvent mal réussi? Outre cela, comment aurait-on pu s'attendre à ce que M. Stelling pût savoir que l'éducation est une affaire délicate et difficile? Pas plus que de s'attendre à ce qu'un animal, doué de la faculté de percer un trou dans le roc, dût avoir des principes en excavation. Les facultés de M. Stelling, et il n'en avait pas de reste, avaient été de bonne heure entièrement amenées à suivre une unique ligne de direction. Parmi les contemporains de Tom, dont les pères avaient confié l'éducation de leurs fils à des instituteurs cléricaux, pour les trouver ignorants plus tard, bon nombre avaient eu une moins bonne chance que Tom Tulliver. L'éducation était presque entièrement une affaire de hasard à cette époque reculée. L'état de votre esprit, quand vous prenez en main une queue de billard ou un cornet à dés, est calme, comparé à l'anxiété des pères d'autrefois, tels que M. Tulliver, quand ils devaient choisir une pension ou un instituteur pour leur fils. Ces hommes excellents, qui pendant toute leur vie n'avaient pu écrire que selon un système improvisé d'orthographe phonétique, et qui, malgré ce désavantage, avaient bien dirigé leurs affaires et acquis assez de fortune pour donner à leur fils un meilleur point de départ dans la vie qu'ils ne l'avaient eu eux-mêmes, devaient s'en remettre au hasard quant à la conscience ou à la compétence d'un instituteur qu'ils ne connaissaient que par sa circulaire, qui paraissait, il est vrai, promettre plus qu'ils n'eussent jamais osé demander. Tom Tulliver, donc, comparé à beaucoup d'autres jeunes Anglais de son temps, qui depuis ont dû se tirer d'affaires dans la vie, plus ou moins aidé par quelques bribes d'instruction et une grande dose d'ignorance, n'avait pas, après tout, une si mauvaise chance. M. Stelling était un homme de bonne santé et vigoureux, ayant la tournure d'un homme comme il faut, et la conviction qu'un garçon qui grandit a besoin d'une suffisante quantité de bœuf. Il avait une certaine bonté de cœur qui lui faisait trouver du plaisir à ce que Tom eût bonne mine et jouit de son dîner. Ce n'était pas un homme à conscience assez délicate pour s'inquiéter beaucoup des conséquences infinies attachées aux devoirs de chaque jour. Il était peu apte à ses hautes fonctions. Mais les hommes, quelque incompétents qu'ils soient, doivent vivre, et sans fortune particulière, il leur est difficile de le faire en gens comme il faut s'ils n'ont rien à faire avec l'éducation ou le gouvernement. De plus, c'était la faute de la constitution intellectuelle de Tom, s'il ne profitait pas de l'espèce d'instruction que M. Stelling avait à communiquer. Un garçon privé du don de saisir les signes et les abstractions doit porter la peine de ce défaut de nature, comme s'il était né avec une jambe plus courte que l'autre. Une méthode d'éducation sanctionnée par la longue pratique de nos vénérables ancêtres ne devait pas céder devant la stupidité d'un élève moderne. Et M. Stelling était convaincu qu'un écolier aussi inepte pour les signes et les abstractions devait l'être pour toute autre chose, comme si ce révérend monsieur avait pu lui enseigner quelque chose d'autre. Nos pères avaient coutume d'employer un instrument de torture, le serre-pouce, afin de mettre au jour des faits imaginaires qu'ils commençaient toujours par supposer réels. M. Stelling avait aussi l'opinion fixe que tous les garçons doués de quelques capacités pouvaient apprendre la seule chose qu'on dût réellement enseigner. S'ils étaient mous, il fallait un serre-pouce. Il fallait insister plus sévèrement sur les exercices et menacer d'une page de Virgile en guise de punition pour encourager et stimuler une inclination trop languissante pour les vers latins. Néanmoins, le serre-pouce fut un peu relâché à l'égard de Tom pendant ce second semestre. Philippe était si avancé dans ses études et si appliqué que M. Sterling pouvait obtenir de la réputation par cet élève qui demandait peu de secours, bien plus facilement que par le procédé ennuyeux de surmonter l'ineptie de Tom. Les hommes à large poitrine et à vues ambitieuses désappointent quelquefois leurs amis en ne pouvant réussir tout dans le monde. Peut-être que de grands succès exigent quelques facultés moins communes que l'ambition de haute récompense. Peut-être que ces messieurs de vigoureuse constitution sont passablement indolents et que leur divinae particularum aurae ne peuvent prendre leur essor par suite d'un trop bel appétit qui les en empêche. Une raison ou une autre faisait différer à M. Sterling l'exécution de plusieurs projets brillants, tels que de commencer dans ses heures de loisir sa tragédie grecque ou quelque autre ouvrage savant. Car lorsqu'il entrait et s'enfermait, avec beaucoup de résolution, dans son cabinet de travail particulier, il se laissait captiver par la lecture de quelques romans de Theodore Hook. Tom fut peu à peu surveillé moins sévèrement dans ses leçons. Mais avec le secours de Philip, il put faire croire à quelque apparence d'application, n'étant point examiné d'assez près pour montrer que son intelligence avait été tout à fait neutre dans son travail. La pension lui parut alors beaucoup plus supportable, et il continua avec assez de satisfaction à s'approprier quelques bribes d'instruction mélangées principalement de choses qui n'étaient point destinées à faire partie de son éducation. Ce que l'on considérait comme devant l'être était simplement la pratique de la lecture, de l'écriture et de l'orthographe, obtenue par une pénible acquisition d'idées inintelligibles et par beaucoup d'insuccès dans ses efforts pour apprendre par routine. Néanmoins, il y avait un progrès visible chez Tom, peut-être parce que ce n'était pas un être destiné seulement à montrer les dangers d'une éducation mal dirigée, mais un garçon de chair et de sang, ayant des dispositions naturelles indépendantes des circonstances extérieures. On remarquait une amélioration sensible dans sa manière de se tenir, par exemple, et on devait en savoir quelque gré à M. Poulta, le maître d'école du village, qui, étant un ancien soldat de la péninsule, donnait à Tom des leçons d'exercice militaire, source de vif plaisir pour tous les deux. M. Poulta, qui était soupçonné par la Société du Cygne Noir d'avoir une fois frappé de terreur les cœurs des Français, n'était plus formidable personnellement. Il paraissait vieux et était un peu tremblant le matin, non à cause de son âge, mais par suite de l'extrême perversité des enfants de Kingslawton, perversité que le gin seul pouvait le rendre capable de supporter avec quelque fermeté. Toutefois, il se tenait martialement droit, avec des habits scrupuleusement brossés et des hauts de chausses bien serrés. Et lorsqu'il venait chez Tom, il était toujours inspiré par le gin et les anciens souvenirs, ce qui lui donnait un air exceptionnellement animé, comme celui d'un vieux cheval de bataille qui entend le bruit du tambour. Les leçons d'exercice étaient toujours prolongées par des épisodes de récits belliqueux, beaucoup plus intéressants pour Tom que les histoires de Philippe tirées de l'Iliade, car il n'y avait point de canon dans l'Iliade. D'ailleurs, Tom avait ressenti quelque dégoût en apprenant qu'Hector et Achille pourraient bien n'avoir jamais existé. Mais le duc de Wellington était réellement vivant, et Boney, Buonaparte, n'était pas mort depuis longtemps. Aussi, les souvenirs de M. Poulter sur la guerre de la péninsule étaient dégagés de tout soupçon de n'être que des mythes. M. Poulter, paraissait-il, s'était fait remarquer à Talavera et n'avait pas peu contribué à la terreur que son régiment inspirait à l'ennemi. Les après-midi, où sa mémoire était plus stimulée qu'à l'ordinaire, il se rappelait que le duc de Wellington, en conversation toute particulière pour ne pas éveiller de jalousie, avait exprimé son estime pour ce beau gaillard de Poulta. Le chirurgien même qui l'avait soigné à l'hôpital, après qu'il eut reçu cette fameuse blessure de boulet, avait été profondément impressionné de la beauté des chairs de M. Poulta. Aucune autre chair n'aurait pu guérir en aussi peu de temps. Quant au sujet moins personnel, lié au service dans lequel il avait été engagé, M. Poulta était plus réservé, ayant soin de ne pas se prononcer sur des opinions indécises concernant l'histoire militaire. Toute personne prétendant savoir quelque chose sur le siège de Badajoz était surtout l'objet de la pitié silencieuse de M. Poulta. Il voudrait, disait-il, que ce causeur eût été renversé et eut eu le souffle coupé à la première décharge, comme il l'avait eu lui-même. Il pourrait alors parler du siège de Badajoz. Tom irritait toujours son maître d'exercice par sa curiosité concernant des sujets militaires en dehors de l'expérience personnelle de M. Paulta. « Et le général Wolf, monsieur, n'était-ce pas un remarquable combattant ?» disait Tom, qui avait l'idée que tous les héros militaires servant d'enseigne au cabaret étaient engagés dans la guerre contre Boney. « Pas du tout, » disait M. Poulter dédaigneusement. « Rien de ce genre. Tête haute » ajoutait-il d'un ferme ton du commandement qui charmait Tom et lui faisait croire qu'il était un régiment à lui tout seul. « Non, non, » continuait M. Poulter, arrivant à un temps de repos dans sa leçon d'escrime. « On ferait mieux de ne pas me parler du général Wolf. Il n'a rien fait que de mourir de sa blessure. C'est une pauvre réaction, je trouve. Tout autre homme serait mort des blessures que j'ai reçues. Un coup de mon sabre aurait tué le général Wolf. « Monsieur Poulter, » disait Tom à cette occasion, « j'aimerais que vous apportiez votre sabre. J'aimerais à vous en voir faire l'exercice. » Pendant longtemps, M. Poulter secoua la tête d'une manière significative à cette requête et sourit d'un air de supériorité, comme Jupiter peut l'avoir fait lorsque ses mêlées lui fit sa trop ambitieuse demande. Mais une après-midi, qu'une averse soudaine avait retenu M. Poulter 20 minutes de plus qu'à l'ordinaire au signe noir, le sabre fut apporté, seulement pour le montrer à Tom. « Et c'est bien là celui avec lequel vous avez combattu dans toutes les batailles, » dit Tom, en maniant le fourreau. « A-t-il jamais coupé la tête d'un Français ?»« Couper une tête ? Ah, 3 têtes, s'il les avait eues !»« Mais vous aviez de plus un fusil et une baïonnette, » dit Tom. « J'aimerais mieux le fusil et la baïonnette, parce qu'on peut tirer dessus d'abord, puis les embrocher après. Pan ! Psss !» Et Tom exécuta la double pantomime pour indiquer le double plaisir de tirer la gâchette et d'enfoncer la pointe. « Ah, mais le sabre est la bonne affaire quand on en vient à se battre de près, » dit M. Poulta, se laissant emporter involontairement par l'enthousiasme de Tom et tirant le sabre si soudainement que celui-ci sauta en arrière avec beaucoup d'agilité. « Oh, mais M. Poulta, si vous allez faire l'exercice, » dit Tom avec un léger sentiment de honte de n'avoir pas maintenu son terrain comme il convenait à un Anglais, « laissez-moi appeler Philippe, ça lui fera plaisir de vous voir, savez-vous. » « Quoi, le garçon bossu ?» dit M. Poulter dédaigneusement. « Qu'a-t-il besoin de venir regarder ?»« Oh, mais il sait beaucoup de choses sur les batailles. Et comment on combattait avec des arcs et des flèches et des haches d'armes ?»« Eh bien, qu'il vienne alors. Je lui montrerai quelque chose de différent de ses arcs et de ses flèches, » dit M. Poulter, en se redressant et préludant un peu par un jeu du poignet. Tom courut vers Philippe, qui jouissait au salon de son congé de l'après-midi, en cherchant des airs sur le piano et les chantant. Il était parfaitement heureux, immobile sur un tabouret élevé, la tête renversée en arrière, les yeux fixés sur la corniche opposée et la bouche grande ouverte, chantant de toutes ses forces des paroles improvisées sur un air d'Arne qui avait éveillé sa fantaisie. « Venez, Philippe, » dit Tom, se précipitant dans la chambre. « Ne restez pas là, beuglez là-là. » « Venez voir le vieux Poulter faire l'exercice du sabre dans la remise. » La contrariété de cette interruption, le désaccord des notes de Tom venant à la traverse de celles qui faisaient vibrer l'âme et le corps de Philippe, eussent suffi pour mettre son caractère hors des gonds, alors même qu'il n'eût pas été question de Poulter, le maître d'escrime. Tom, dans sa précipitation à inventer quelque chose pour empêcher M. Poulter de penser qu'il avait eu peur du sabre, était malencontreusement tombé sur la proposition d'aller chercher Philippe. Il savait fort bien que celui-ci détestait d'entendre parler de ses leçons d'armes, et il n'aurait pas agi aussi inconsidérément sans la fâcheuse impulsion de son orgueil personnel. Philippe tremblait visiblement en cessant sa musique, puis, devenant rouge, il dit avec une violente colère « Allez-vous-en, lourd idiot que vous êtes ! Ne venez pas souffler si près de moi !» Vous n'êtes bon qu'à parler à un cheval de charrette. » Ce n'était pas la première fois que Tom avait mis Philippe en colère, mais il ne s'était jamais encore vu apostrophé de paroles qu'il comprit si bien. « Je suis propre à parler à quelque chose de mieux que vous, lâche démon que vous êtes, » fit Tom, s'enflammant immédiatement au feu de Philippe. « Vous savez que je ne vous frapperai pas parce que vous ne valez pas mieux qu'une fille. Mais je suis le fils d'un honnête homme, et votre père est un coquin. Tout le monde le dit. » Tom s'élança hors de la chambre et tira violemment la porte après lui, rendu tout à fait inattentif par sa colère. Car heurter les portes de manière à être entendu de Madame Stelling, qui n'était probablement pas éloignée, c'était une faute qui ne pouvait s'effacer que par 20 lignes de Virgile. Cette dame descendit aussitôt, doublement étonnée de ce bruit et de la cessation de la musique. Elle trouva Philippe assis sur la natte et pleurant amèrement. « Qu'est-ce qui se passe, Wakeham? Pourquoi ce bruit? Qui est-ce qui a frappé la porte ?» Philippe leva les yeux et essuya ses larmes à la hâte. C'est Aleva qui est entrée pour me demander de sortir avec lui. « Et qu'est-ce qui vous a fait de la peine ?» dit Madame Stelling. Philippe n'était pas son favori. Il était moins obligeant que Tom, que l'on utilisait de diverses manières. Cependant, son père payait plus que M. Taleva, et elle désirait lui montrer de l'intérêt. Philippe, toutefois, recevait ses avances à peu près comme un mollusque caressé reçoit une invitation à sortir de sa coquille. Madame Stelling n'était pas une femme aimante et au cœur tendre. C'était une personne d'ordre, de toilette régulière, et qui arrangeait ses boucles de cheveux d'un air préoccupé, en vous demandant des nouvelles de votre santé. Ces choses sont très convenables dans l'ordre social, mais n'ont pas de pouvoir sur le cœur, et ce seul pouvoir aurait pu vaincre la réserve de Philippe. Il répondit à ces questions « Mon mal de dents est revenu et m'a rendu nerveux ». Cela était arrivé une fois, et Philippe fut content de se le rappeler, pour faire excuser ses pleurs. Il lui fallut accepter de l'eau de Cologne et refuser de la créosote, mais ce fut facile. Pendant ce temps, Tom, qui pour la première fois avait lancé une flèche empoisonnée au cœur de Philippe, était retourné à la remise, où il trouva M. Poulter avec le regard fixe et animé, déployant toute adresse de son maniement du sabre en faveur des rats qu'il observait, mais l'appréciait probablement fort peu. M. Poulter était son propre public, et s'admirait lui-même plus que toute une armée de spectateurs ne l'eussent fait. Il ne fit aucune attention au retour de Tom, tout occupé qu'il était de l'attaque et de la parade. Du solennel 1, 2, 3, 4, et Tom, non sans un léger sentiment de crainte de ses yeux hagards et de l'air provoquant du sabre, qui paraissait impatient d'avoir quelque chose d'autre que l'air à pourfendre, admirait cette exécution d'aussi loin que possible. Ce ne fut que lorsque M. Poulter s'arrêta et s'essuya le front que Tom sentit tout le charme de cet exercice et lui demanda de le recommencer. « M. Poulter, dit Tom, quand l'arme fut finalement remise dans le fourreau, j'aimerais que vous me prêtiez votre sabre pour le garder quelque temps. »« Non, non, jeune homme, dit M. Poulter, secouant la tête, vous pourriez vous blesser. »« Non, je suis sûr que non. Je suis sûr que je ferai attention à ne pas me blesser. » Je ne le sortirai guère du fourreau, mais je pourrai monter la garde et jouer aux soldats. Non, non, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas, dit M. Poulter, se préparant à partir. Que dirait M. Stelling? Je vous donnerai ma pièce de 5 shillings si vous me confiez le sabre une semaine, voyez-vous, dit Tom en sortant pour le tenter, la grande pièce d'argent. Le jeune gaillard en calculait l'effet comme l'eût fait un habile philosophe. Eh bien, dit M. Poulter, avec plus de gravité, il faudra le cacher avec soin, vous savez. Oh oui, je le cacherai sous le lit, dit Tom, ou plutôt au fond de ma grande caisse. Mais laissez-moi voir à présent si vous pouvez le sortir du fourreau sans vous blesser. Cette expérience ayant été répétée plus d'une fois, M. Poulter sentit qu'il avait agi avec une conscience scrupuleuse et dit, eh bien, maître Taleva, si je prends la pièce d'argent, c'est pour être sûr que vous ne ferez rien de mal avec le sabre. Oh, certainement, monsieur Poulter, dit Tom, lui tendant avec joie la couronne et s'emparant de l'arme, laquelle, pensa-t-il, aurait pu avec avantage se trouver plus légère. Mais si monsieur Stelling vous surprend ainsi en rentrant dans la maison, dit monsieur Poulter, mettant provisoirement la couronne dans sa poche, tandis qu'il élevait ce nouveau doute. Oh, il se tient habituellement en haut, dans son cabinet de travail le samedi, dit Tom, qui détestait toutes les choses viles, mais ne craignait pas un petit mensonge pour une cause qui en valait la peine. Il prit le sabre avec un triomphe mêlé de crainte, la crainte de rencontrer M. ou Mme Stelling. Il l'emporta dans sa chambre, où, après mûre réflexion, il le cacha dans l'armoire, derrière quelques vêtements suspendus. Cette nuit-là, il s'endormit avec la pensée d'émerveiller Maggie quand elle viendrait. Il s'attacherait l'arme avec une écharpe rouge autour de la taille et lui ferait croire que le sabre était à lui et qu'il allait être soldat. Personne que sa sœur ne pourrait être assez simple pour le croire. Il n'y avait que Maggie à qui il put permettre de savoir qu'il avait un sabre. Elle devait effectivement venir la semaine suivante voir Tom avant d'aller dans un pensionnat avec Lucy. Vous pensez peut-être qu'un garçon de 13 ans ne devait pas être aussi enfant. Alors vous devez être un homme exceptionnellement sage. Si votre carrière civile exigeant que vous ayez l'air doux plutôt que formidable, vous n'avez jamais pris une attitude martiale ou froncé le sourcil devant un miroir. Il est douteux que nous puissions avoir des soldats si nous n'avions chez nous des gens pacifiques qui s'imaginent pouvoir être militaires. La guerre, comme d'autres spectacles dramatiques, pourrait peut-être cesser, faute d'un public.